Et si aujourd'hui, je te disais qu'on peut vraiment tous avoir une seconde chance, ou encore que vivre avec un chat sans le sou en étant étudiant, et ben c'est maintenant possible. Besoin d'éclaircissement ? Ça tombe bien parce que t'es précisément au bon endroit. On va parler de tout ça dans cette émission qui commence dès à présent. Bonjour, toi qui m'écoutes, bienvenue. Je suppose que t'es en train de déjeuner et que t'as grand besoin d'entendre des choses rassurantes et intéressantes. Dans ce cas, profite de ces 30 minutes qui te sont spécialement dédiées. T'es en train d'écouter Étudiant Time, l'émission qui s'adresse aux étudiants en études sup, en galère ou non, pour des tips et astuces sur ta vie d'étudiant. Moi c'est Myria, je passe mon temps à me renseigner sur des tas de trucs et à te les partager ici. Je suis comme d'habitude accompagnée de ma chroniqueuse Marine. Hello, hello Marine.
Coucou.
Marine qui est étudiante en journalisme à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Le dactylo sera également parmi nous, ainsi que notre invité du jour que nous allons présenter juste après. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a au sommaire aujourd'hui, me direz-vous ? D'abord, connaissez-vous l'école supérieure de l'alternance située à Cholet ? C'est ce que va présenter le dactylo dans le Focus étudiant. Ensuite, exceptionnellement, c'est Marine qui va interviewer l'invité du jour, je vais y arriver, Juliana Gendron, responsable DAEU et post-bac, pour parler du DAEU plus en détail. Pour poursuivre, qu'est-ce que tu dirais d'une astuce 2 en 1 pour pouvoir vivre avec un animal de compagnie, à la fois en étant raccord avec ta situation étudiante et en faisant une bonne action ? Je prends la relève de Marine pour t'en parler dans l'astuce étudiante. Vu qu'on va parler de réorientation professionnelle, j'aimerais en profiter pour alerter sur l'importance de poser et définir des limites dans la chronique santé mentale du jour. Maintenant, installe-toi bien, mets-toi bien et laisse-toi porter par Étudiant Time pour améliorer ton quotidien. En plus ici, c'est chill et surtout, on est là pour te soutenir. Pas vrai Marine ?
Toujours, on est là.
On démarre l'émission avec le Focus étudiant à propos de l'école supérieure de l'alternance.
Salut à tous! Aujourd'hui, on vous parle d'une formation qui pourrait bien vous intéresser. Surtout si vous êtes en galère Parcoursup, courage ou en plein doute sur votre orientation.
Oui, parce qu'on le sait, cette période entre les vœux et les résultats, c'est souvent l'angoisse. On se pose 1000 questions, on remet tout en doute, mais pas de panique, c'est normal.
Que tu sois en terminale ou déjà étudiant et que tu envisages une réorientation, cette chronique est pour toi. Parce que non, il n'est jamais trop tard pour trouver sa voie.
Et justement, aujourd'hui, on te parle du BTS Communication proposé par l'ESA à Cholet. Une formation qui mêle théorie et pratique avec de vraies perspectives derrière.
Alors l'ESA, c'est quoi ? C'est l'école supérieure de l'alternance. Elle est basée à Cholet, dans le Maine-et-Loire, et elle propose plusieurs formations dans des domaines comme l'administration, le commerce, la vente et bien sûr la communication.
Et leur BTS Communication peut se faire de 2 façons. En initial, donc 100% à l'école, avec un stage de 8 semaines dans l'année, ou en alternance. Et là, c'est le top. 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise, chaque semaine. De quoi mettre un pied directement dans le monde professionnel.
Et le budget dans tout ça ? Si tu choisis l'initial, la formation te coûtera 3950 euros par an. En revanche, si tu optes pour l'alternance, c'est ton entreprise qui prend en charge les frais. Et tu es payé. Si ça, c'est pas le top. Un vrai plus quand on veut apprendre tout en gagnant en autonomie.
Mais alors, on y fait quoi concrètement dans ce BTS ? Eh bien, tu vas apprendre à mettre en place des stratégies de communication, à gérer des supports digitaux et médias, et surtout à communiquer efficacement. À l'oral, à l'écrit, en visuel, tu vas développer des compétences solides et utiles.
Et les cours sont super variés. Communication, anglais, droit, économie, management ou encore culture de la com, une vraie boîte à outils pour ton futur métier.
Et ce BTS, il s'adresse à qui ? Au bac généraux, bien sûr, que tu viennes de SES, LLCE, AGGSP, ou même avec les maths, tu es dans le bon wagon.
Tu te souviens d'SP ? Oh, la galère, c'était quelque chose de bien difficile sur tous les maths.
Mais rassurez-vous, en études supérieures, ça devient bien plus concret. Vous allez enfin découvrir des matières qui vous passionnent vraiment.
Les STMG sont aussi bien représentés dans la promo. Et pour les bacs pro, c'est possible, avec un très bon dossier et beaucoup de motivation.
Ce qu'on attend surtout de vous, c'est que vous soyez à l'aise à l'oral, curieux, créatif, que vous aimiez écrire, vous exprimer, bref, que vous soyez motivé pour communiquer.
Et après le BTS, que faire ? Tu peux continuer avec un bachelor à l'ESA par exemple, comme le bachelor communication plurimédia ou le bachelor marketing digital, ou rentrer directement sur le marché du travail si tu préfères.
Les débouchés sont nombreux. Chargé de communication, community manager, attaché commercial, Responsable des relations presse, c'est un secteur dynamique et en demande.
Donc si tu cherches une formation concrète, professionnalisante, qui te donne vraiment des compétences pour l'avenir,
le BTS Communication de l'ESA Cholet, c'est peut-être exactement ce qu'il te faut.
Prends le temps d'explorer, de poser des questions, d'aller aux portes ouvertes, même de contacter des anciens élèves. Ton orientation mérite qu'on s'y penche sérieusement.
Merci de nous avoir écoutés et surtout bon courage dans vos recherches. Rappelle-toi, ton avenir, c'est toi qui l'écris.
Et si tu veux réécouter cette chronique, direction radio-g.fr, rubrique Étudiant Time. À très vite.
On poursuit l'émission avec Marine pour parler du DAEU avec notre invité du jour.
Et oui, en effet, aujourd'hui, je remplace Myria. Et aujourd'hui, les amis, on va parler ensemble de réorientation professionnelle et de reprise d'études. Car oui, il n'est jamais trop tard pour passer son bac à l'Université d'Angers. Et ça, grâce au DAEU, ou on peut également dire le DAE. C'est donc le diplôme d'accès aux études universitaires. Et pour ça, j'ai justement le plaisir d'accueillir Juliana Gendron, responsable du DAE et post-bac à l'Université d'Angers.
Bonjour Marine, bonjour Myria, et merci bonjour. Pour l'invitation.
Bienvenue à l'antenne de Radio G. Alors Juliana, pouvez-vous présenter en quelques mots et nous parler de votre rôle au sein du DAE d'Angers et surtout ce qui vous a motivé dans ce domaine ?
Donc moi je suis la responsable pédagogique du DAE ou DAEU, c'est-à-dire le diplôme d'accès aux études universitaires. Et en fait, je coordonne toute la partie enseignement, c'est-à-dire que je pilote une équipe d'enseignants, environ une dizaine, dans différentes filières, lettres, mathématiques, histoire, humanité et philo. Et ces enseignants travaillent aussi bien à l'université, donc ils sont soit maîtres de conférences, soit professeurs, ou ils sont aussi professeurs dans le secondaire, c'est-à-dire collège-lycée. Moi-même, j'enseigne la littérature et les humanités, et donc j'interviens au sein du DAEU ou DAE, parce que j'apprécie ce moment seuil en fait, hein, qui est le bac et cette seconde chance qu'on propose donc, aux adultes, à tous ceux qui ont à peu près 20 ou 24 ans. On va reparler ensuite des conditions qui sont un peu particulières de ce diplôme vraiment de la seconde chance, véritable tremplin.
Super. Et alors, rentrons dans le vif du sujet. Vous êtes responsable donc du DAE à l'Université d'Angers. Et comme je l'ai dit juste avant, ce diplôme est parfait, par exemple, pour montrer qu'il est toujours possible de reprendre ses études. Hein, c'est comme vous disiez, que vraiment, il n'est jamais trop tard et que même à 30 ans, il est possible de reprendre ses études. Et donc, ça fait combien de temps, justement, que cette filière existe, Juliana ?
Alors, le DAEU, c'est un peu méconnu, mais en fait, ça fait depuis 1994, donc un peu plus jeune que moi. Mais c'est quand même une filière qui a fait ses preuves et beaucoup de candidats qui sont passés par ce diplôme qui est vraiment l'équivalent du baccalauréat ont en fait de brillantes carrières après à l'université ou dans leur emploi, ils ont pu évoluer. Et donc, le DAEU, c'est un diplôme de la formation professionnelle. Ça veut dire qu'il est réservé à des gens qui ont au minimum 20 ans et 2 ans d'expérience professionnelle. Mais une fois qu'ils ont le DAU, on ne leur demande pas s'ils ont le DAE, DAU ou s'ils ont le bac. C'est exactement l'équivalent. Donc assez méconnu, étrangement, mais une réelle opportunité.
Ouais, ça a le même poids, on va dire, sur un CV.
Même poids sur un CV, c'est vraiment un véritable tremplin, nous on dit, parce qu'en plus ils sont à l'université. Donc ils ont des professeurs d'université, collège, lycée, ils sont déjà à la frontière. Donc ils sont prêts pour...
ils sont prêts à l'emploi.
Ouais, prêts à l'emploi et prêts pour les plus grandes ambitions.
Parfait. Et justement, comment s'y prendre ? Parce qu'effectivement, une telle formation, c'est une grande opportunité lorsque l'on souhaite se réorienter, se remettre à niveau, notamment pour les étudiants étrangers. J'imagine qu'il y en a aussi, et quel que soit l'âge, vous l'auriez compris. Mais justement, quelles sont les modalités et les conditions requises pour justement s'y inscrire ? Est-ce qu'il y a des tests à passer ? Est-ce qu'il faut encore passer par la case Parcoursup qui est assez redoutée par les étudiants ?
Alors comme c'est la formation professionnelle, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir un profil particulier. Et là, le profil, c'est le critère d'âge. Donc 20 ans et 2 ans de cotisation à France Travail ou 2 ans d'emploi. Si vous n'avez pas cette cotisation, cette durée de 2 années, il faut avoir 24 ans. Outre ce critère d'âge et donc de statut de salarié, en fait, il faut quand même avoir un minimum de niveau, en particulier en français. Et donc, le jour de la réunion d'inscription, on propose aux candidats des tests de positionnement. Donc, c'est un peu stressant, mais ceci, voir comment chacun réagit au stress, hein, c'est assez stimulant malgré tout. Et donc, dans ces tests de positionnement, vous avez une petite épreuve de français, de littérature française, une petite épreuve d'anglais, je dis petite, mais c'est quand même déjà un petit passage, mathématiques. Et au terme de ces tests, on a à peu près 10% des candidats à qui on propose de se former, peut-être de prendre un peu plus de recul en français, de se former auprès d'autres instances. Vous avez le Greta, par exemple, qui peut proposer une remise à niveau en français. Parce que nous, c'est quand même le niveau baccalauréat. Mmh. C'est-à-dire qu'un baccalauréat, un lycéen, il le prépare de sa seconde, première terminale. En DAU, vous avez potentiellement en un an ce que fait un lycéen en trois ans. Donc, c'est vraiment une pression, enfin un travail quand même qui est intense. Ce n'est pas un baccalauréat de seconde zone. Mmh. Peut-être de seconde chance, mais pas de seconde zone. Donc, vraiment en avoir conscience, ça vous ouvre après les mêmes portes. En revanche, à la différence du bac, vous ne préparez que quatre matières. Donc, vous avez moins de perspectives qui vous sont proposées, mais sur les quatre matières que vous allez choisir, vous aurez le même niveau qu'un lycéen, mettons, qui a fait une terminale spécialité littérature. Bah, vous prenez le DAU A, c'est-à-dire littéraire, vous pourrez intégrer une licence de lettres modernes ensuite. Si vous prenez un DAU B, c'est-à-dire scientifique, vous allez choisir des matières spécialité scientifique, donc vous pourrez intégrer une licence de mathématiques, par exemple, ou physique-chimie ou biologie. Donc c'est ouvert à tous, mais il faut bien avoir conscience quand même du niveau qui va être attendu, et c'est quand même tout l'enjeu, c'est obtenir un baccalauréat, c'est quand même le diplôme, le sésame français qui malheureusement encore est une entrave pour beaucoup, mais ouvre aussi beaucoup de portes.
C'est sûr, donc ça promet, c'est sûr, au niveau du rythme, et malgré les termes qui sont un peu, difficiles à comprendre, c'est vrai que ça rejoint aussi quand même le système du lycée avec les différentes spécialités qu'il peut y avoir. Mais une information très utile aussi sur votre site unif-angers.fr, vous expliquez qu'en étant déjà titulaire d'un baccalauréat, qu'il soit général ou technologique, il est possible donc d'accéder au DAE, mais pas seulement en passant par la case remise à niveau. Est-ce que justement les chances d'intégrer une formation sont-elles les mêmes avec l'obtention d'un DAE qu'avec un bac initial, donc général ou technologique? Je parle sur justement le marché du travail notamment.
Oui, alors le but, c'est qu'en fait, quand vous avez votre DAU ou DAE, on ne vous demande plus ensuite quel a été votre diplôme. C'est que vraiment cette page bac, elle est validée, elle est tournée et vous avez les compétences. Et effectivement, à l'entrée en licence, on a quand même de bonnes réussites. On accompagne les candidats, vous avez évoqué Parcoursup, hein, le stress Parcoursup. On accompagne les candidats, on relie leur projet Parcoursup, la fameuse lettre de motivation, le fameux CV à déposer. Et donc, on les accompagne jusqu'à leur intégration à l'université. Sachant qu'ils ont déjà un pied dans l'université. Ils ont devant eux quand même des maîtres de conférences, des professeurs qu'ils vont peut-être retrouver ensuite en licence. Donc, on les accompagne dans la suite. Donc les mêmes chances pour intégrer la licence, pour intégrer un BTS, un IUT. Bien sûr, le DAE, c'est comme le bac, hein. Il faut malgré tout avoir quand même des bonnes notes. C'est-à-dire que c'est pas juste valider son diplôme, c'est avoir un dossier, malheureusement, le mot il est un peu délicat, mais un dossier compétitif pour les filières qui sont malgré tout sélectives. Donc comme un baccalauréat général avec les spécialités que vous allez prendre. Et la fameuse remise à niveau que vous avez évoquée, effectivement, à l'Université d'Angers, on propose pour des étudiants qui auraient déjà un baccalauréat, ça peut être technologique ou pro, et ou même dans une filière qui n'était pas la bonne selon leurs souhaits, de refaire une remise à niveau dans les matières ou la matière sur laquelle ils vont postuler ensuite en post-bac. Donc, c'est à la fin de l'année, ils ont un bulletin scolaire avec cette fameuse moyenne et cette note qui permet de rendre compétitif leur dossier sur Parcoursup.
Et alors vous parlez quand même de compétition, vous avez des promos de, si on parle en termes de promos ou de classes, de combien d'étudiants?
Alors nous on a une promo cette année de 80 candidats et du coup la notion de compétition au sein de la promo elle n'existe pas vraiment parce qu'on a beaucoup d'entraide, on a des candidats qui s'avèrent très très forts en maths et qui vont aider, qui vont donner des cours de soutien à leurs collègues. Et comme chacun a des profils un peu différents, on a des candidats qui ont 20 ans, mais d'autres qui ont aussi 60, 64 ans. Bon, la moyenne d'âge, peut-être, ça serait un peu moins de la trentaine. Mais on a quand même tous les horizons. On a des mamans, des papas, des gens, des salariés. Et donc, ils vont beaucoup s'entraider. La compétition, ils s'y sont préparés pour l'année suivante, mais là, dans l'année, non, il n'y a pas de... plutôt une bonne ambiance. Et c'est l'occasion aussi, le DAU, de reprendre une vie sociale, de se faire une promo, de se faire des camarades... Les candidats sont globalement très satisfaits de cette année intense ou de ces années, hein, parce que ça peut être 4 ans aussi le DAU selon leur projet.
Et alors justement, là vous évoquez les différences d'âge, mais comment tous les étudiants, donc vous parliez qu'il y avait des fois des mamans, etc. comment vous les aidez et comment ils font pour jongler entre leur vie de famille et leur emploi et surtout comment vous les accompagnez pour pallier les deux et pour leur permettre de réussir au mieux et d'obtenir leur diplôme.
Alors le DAEU, c'est quand même un baccalauréat, mais c'est avec un aménagement particulier, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment être accompagnés par des professeurs déjà qui ont fait le choix d'enseigner auprès d'adultes qui vont passer le baccalauréat. Et donc le DAEU se prépare en un an, on peut passer ces quatre matières en un an, mais on peut aussi les passer en deux ans, trois ans ou même quatre années. En fait, tout va dépendre de votre formule. C'est-à-dire que, mettons, je travaille à plein temps, je suis chargée de famille, j'ai des contraintes importantes familiales, et ben, je peux décider de passer simplement une matière par an, et donc je vais opter pour un DAEU en quatre ans. Ça me permet d'obtenir en douceur hein, ce diplôme. On va savoir quand même que le bac, les candidats le travaillent en 3 ans, vous, potentiellement, ça peut être 1 an. Donc 4 ans, c'est pas non plus aberrant pour un baccalauréat. La plupart des candidats vont le passer en 2 ans, c'est-à-dire qu'ils vont prendre 2 matières par an. Et donc on aura des cours du soir pour ceux qui vont travailler en journée. Cours du soir, ça veut dire 18h-20h30, mais aussi des cours de journée parce qu'on a quand même des gens qui travaillent aussi la nuit en usine notamment. Le but, c'est vraiment de proposer des cours, pas forcément à la carte, mais avec la plus grande offre possible, donc journée ou soirée. Et ils seront accompagnés donc par moi, responsable pédagogique, et par mon collègue Geoffrey Debigny, qui est responsable administratif. Donc un accompagnement quand même assez important. Et j'ai oublié aussi une conseillère en insertion professionnelle. Donc cette année, c'est Zora Gassemi qui les suit dans leur projet d'orientation très utile hein, pour choisir les différentes filières à l'université.
Alors d'après une enquête de l'INSEE en 2022, en France, 47% des personnes âgées de 18 à 69 ans ayant terminé leur formation initiale déclarent avoir suivi au moins une formation au cours des 12 derniers mois. Donc vous évoquiez justement que le DAE était peu connu, mais malgré ça, est-ce que vous pourriez nous donner les chiffres clés de l'UA concernant la reprise d'études ?
Donc non, à l'UA, à l'Université d'Angers, on a à peu près 70% de réussite aux examens chaque année. Sachant, comme je l'ai dit, que ça peut être en 4 ans, en 1 an, en 2 ans, donc ces 70%, c'est positif, mais il ne faut pas non plus dramatiser sur les 30% parce qu'on peut quand même, on a le droit aussi de passer l'épreuve de français ou de mathématiques en 2 années, de prendre le temps d'être performant et d'avoir quand même une bonne note pour intégrer ensuite.
Très bien, merci beaucoup Juliana Gendron. Nous espérons que cette interview motivera plus d'un de nos auditeurs qui sont très hésitants et qui se lanceront enfin dans l'aventure. En tout cas, je vous remercie. Nous arrivons à la fin de cette interview. Je remercie une fois de plus Juliana Gendron, responsable du DAE à l'Université d'Angers, d'avoir accepté de participer à cette émission en tant qu'invitée. On peut désormais vous retrouver et retrouver toutes les informations sur le site de l'Université d'Angers, univ-angers.fr, que l'on vous partagera bien sûr dans la description. Et vous, nos chers auditeurs, n'oubliez pas que vous soyez dans le stress, le doute, enfin bref, que vous réfléchissez trop, eh bien, pas d'inquiétude parce qu'une formation est faite pour vous et vous attend. En attendant, je vous dis à très bientôt.
C'est l'heure d'une courte pause musicale avec le titre « Le tuto » de Miel de Montagne. Profite bien et à tout de suite.
J'ai tenté un tour de magie, je pensais pas qu'il marcherait. Devant moi la foule s'agite, mais je sais même plus comment j'ai fait. Ce serait le four de ma vie, s'il fallait le refaire bientôt. Miel, j'ai besoin que tu m'expliques. J'ai besoin d'un tuto, 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 tuto.
Oh, laisse-toi porter par la vibe. Et surtout reste toi-même un peu vague. Oh, laisse-toi porter par la foule. Et surtout reste toi-même un peu flou.
J'ai refait une apparition, mais y'avait plus de connexion.
j'avais du talent, mais c'était la chance du débutant. Quand ça roule, je glisse. Quand ça marche, je tombe. Et quand ça joue, je perds. Et quand ça se passe, je suis loin. Alors miel, s'il te plaît, je crois que j'ai vraiment besoin d'un tuto.
D'écouter le tuto de Miel de Montagne. Bon retour parmi nous, vous êtes sur Étudiant Time.
Et oui, je vous invite d'ailleurs à consulter le site de l'Université d'Angers pour vous inscrire à la réunion du 16 juin prochain.
Pour en revenir au tuto, qu'est-ce que tu dirais d'un tuto 2 en 1? C'est l'heure de l'astuce étudiante à propos des animaux de compagnie. Quand on est étudiant, qu'on vit seul ou en coloc, on a parfois envie d'un peu plus de chaleur à la maison. Et pour beaucoup, cette chaleur, c'est celle d'un animal, un chat souvent. Parce que c'est indépendant, affectueux, drôle, rassurant. Et puis, soyons honnêtes, rien ne vaut un bon câlin de chat quand on a eu une journée pourrie. Mais est-ce que c'est bien raisonnable quand on est en études ? C'est là que le sujet devient intéressant, parce qu'adopter un animal, ce n'est pas juste se faire plaisir, c'est un engagement sur 15 à 20 ans, un coût financier non négligeable, une responsabilité quotidienne. Et parfois, en tant qu'étudiant, ce n'est pas réaliste. On bouge souvent, on a peu de moyens, on n'a pas encore de stabilité. Mais alors, si on aime profondément les animaux, si on se sent prêt à en prendre soin, est-ce qu'il y a une solution plus adaptée ? La réponse est oui, et c'est une solution qui allie responsabilité, solidarité et amour des bêtes, devenir famille d'accueil pour une association de protection animale. À Angers, il y a une association que je connais très bien, c'est Un cœur sans toit. Depuis des années, elle sauve des chats et des chiens aussi, abandonnés, maltraités, blessés ou tout simplement laissés sur le bord de la route. Ces animaux, pour la plupart, n'ont plus rien ni personne. L'association les prend en charge, les soigne, les nourrit et surtout, elle leur trouve des familles d'accueil temporaires le temps qu'ils soient adoptés définitivement. C'est là que vous pouvez intervenir si vous êtes étudiant et que vous avez un minimum de temps et d'amour à offrir. Être famille d'accueil, c'est quoi ? C'est accueillir un chat chez soi temporairement le temps qu'il trouve sa famille pour la vie. Ça peut durer quelques semaines comme plusieurs mois et pendant ce temps, l'association prend tout en charge. Les croquettes, la pâtée, la litière, les jeux, la caisse de transport, les frais vétérinaires, tout. Vous ne déboursez rien. Vous avez simplement à aimer l'animal, à veiller sur lui et à le socialiser si besoin et à l'accompagner dans ce moment de transition. Et ça change tout. Pour l'animal, bien sûr, qui est dans un foyer chaleureux au lieu d'un box ou d'un refuge ou encore la rue, mais aussi pour vous, parce que vous avez une présence au quotidien, un lien affectif fort, sans pour autant vous engager sur 20 ans. Et surtout, vous sauvez littéralement une vie. Ce n'est pas anodin, ça donne du sens et ça peut même vous aider, vous aussi, à traverser des périodes difficiles. Personnellement, être famille d'accueil m'a appris la patience, la bienveillance, l'adaptation. J'ai vu des chats arriver traumatisés et repartir transformés. J'ai vécu des adieux déchirants mais toujours remplis de fierté et j'ai vu à quel point le lien qu'on crée avec un animal, même temporaire, peut être puissant. Alors si vous êtes à Angers ou même ailleurs, renseignez-vous. L'association Un cœur sans toit cherche régulièrement des familles d'accueil et je vous assure, vous recevrez autant que vous donnerez. Avoir un chat quand on est étudiant, c'est possible. Il faut juste que ce soit réfléchi, adapté et éthique. Et devenir famille d'accueil, c'est l'équilibre parfait entre amour, engagement et solidarité. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur la page Facebook de l'association Un cœur sans toit et sur son Instagram du même nom.
C'était Myria, votre pet-sitter préférée.
Avant de clôturer cette émission, laisse-moi te parler de l'importance de définir des limites dans la chronique santé mentale du jour. Il existe un mot discret, parfois mal compris mais fondamental lorsqu'on parle de santé mentale, les limites. À première vue, poser des limites peut sembler froid, rigide, voire impoli. En réalité, c'est tout le contraire. C'est un art subtil, celui de préserver sa dignité sans blesser, d'exister sans s'effacer. Et dans le monde professionnel où la disponibilité est souvent glorifiée au détriment du repos, où la polyvalence se confond avec surcharge, où le silence est pris pour de l'accord, apprendre à poser ses limites devient un acte de lucidité. La psychothérapeute américaine Nedra Glover Tawab, dans son livre « Set Boundaries, Find Peace », écrit « Les limites sont les distances que je permets aux autres de franchir dans ma vie pour que je puisse rester en paix avec moi-même ». Cette phrase, presque poétique, rappelle que les limites ne sont pas des murs mais des repères intimes. Elles ne ferment pas, elles orientent. Elles disent « voici ce que je peux donner sans me trahir ». Pourquoi est-ce si difficile, surtout quand on est jeune, qu'on débute et qu'on souhaite faire ses preuves ? Eh bien parce que notre culture professionnelle valorise encore largement le « toujours plus », plus disponible, plus réactif, plus impliqué. Poser une limite est alors perçu à tort comme un manque d'engagement, c'est une erreur d'interprétation. L'INRS en France rappelle que dans ses travaux sur les risques psychosociaux que la surcharge de travail, la pression temporelle et le manque d'autonomie figurent parmi les premiers facteurs du stress au travail. Ce stress accumulé mine lentement la concentration, la motivation, le sommeil et parfois même l'estime de soi. Alors comment poser une limite sans culpabiliser ? D'abord en écoutant ces signaux internes. Le corps et l'esprit parlent. Tension dans la nuque, boule au ventre avant une réunion, irritabilité soudaine, fatigue chronique, autant d'alertes indiquant que quelque chose déborde. Ensuite, en utilisant des formulations simples, mais fermes, par exemple dire « je suis à l'écoute, mais je ne peux pas traiter ça dans l'urgence » ou « ce n'est pas dans mon périmètre, je vous invite à vous rapprocher de X ». Ce n'est pas se dérober, c'est redéfinir le cadre de travail sans céder à la pression. La psychologue clinicienne Michaela Thomas, spécialisée dans la prévention du burn-out, insiste sur l'importance de tenir ses limites, c'est-à-dire ne pas seulement l'annoncer, mais l'habiter pleinement. Ce n'est pas un refus passif, c'est une position assumée. Et oui, cela peut déranger, parce que cela introduit une frontière là où on avait pris l'habitude d'empiéter. Mais c'est aussi cela, la maturité émotionnelle, accepter que le conflit soit parfois inévitable, mais que l'épuisement, lui, ne doit jamais être banalisé. Il ne s'agit pas de devenir inflexible, mais de ne pas se diluer. Dans « Imparfait, libre et heureux », le psychiatre Christophe André écrit « Apprendre à dire non, c'est se donner une chance d'être pleinement oui à ce qui compte vraiment. C'est une idée précieuse. Refuser, ce n'est pas tourner le dos aux autres, c'est faire le tri entre ce qui nourrit et ce qui vide. Dans le travail comme dans la vie, poser ses limites, c'est choisir d'être présent sans se sacrifier. Et ce choix-là, il est ni arrogant, ni défensif, il est profondément sain. » Juliana, Marine, le dactylo, merci à tous. Comment vous sentez-vous après cette petite demi-heure d'étudiant time ?
Eh bien, moi, ça a été un grand plaisir de pouvoir recevoir Juliana Gendron pour présenter le DAE. Et j'espère que ça en motivera plus d'un.
Oui.
Je vous remercie pour votre accueil.
Merci, c'était très intéressant. Et j'espère que, oui, il y a pas mal de personnes qui vont s'y intéresser. Marine, oui, c'était ta première interview. Bien joué, je suis très fière de toi.
Et toi, t'as pris la relève de mes astuces.
Des astuces, c'est ça. Alors, en résumé, aujourd'hui, on a parlé de l'école supérieure, de l'alternance dans le focus étudiant. On a reçu donc Juliana Gendron dans le studio pour présenter ce qu'était le DAEU. On a parlé du fait d'être famille d'accueil en association pour chiens et chats dans l'astuce étudiante. Et on a conclu l'émission en parlant des limites dans la chronique santé mentale. Tu peux retrouver la rediffusion de l'émission sur radio-g.fr dans la rubrique Étudiante Time. J'espère que ça t'aura intéressé autant que nous. Étudiante Time, c'est à 13h un mardi sur deux. Bon courage pour les révisions ou pour l'attente de réponses Parcoursup. Et à très bientôt. Vous êtes bien sur Radio G. T'as coupé le fil, t'as compris le deal.